franceinter.fr.
C'était un très bon concert. Les gens dansaient, ça rigolait, enfin non, c'était très très bien. Je me suis retourné, j'ai dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Et là j'ai vu comme des flashs. J'ai entendu donc des bruits de pétards, la lumière s'est allumée d'un coup, la lumière de la salle. Je me retourne vers la scène, plus personne sur scène. Le groupe avait disparu. Et je me suis dit... En fait, j'avais lu un article qui racontait que Daesh avait appelé à attaquer des salles de concert et ce genre de choses. Et je me suis dit, ça y est, on y est, quoi.
Ainsi commence le récit de Fabien, rescapé de la tuerie du Bataclan le 13 novembre dernier à Paris. Il a pu assez vite sortir de la salle et se réfugier dans un hall d'immeuble. Ce sont ces témoins d'un drame exceptionnel, les témoins d'une page d'histoire dont vous voulez recueillir et conserver la parole. Bonjour Christian Delage.
Bonjour.
Directeur de l'Institut d'Histoire du Temps Présent, unité de recherche qui dépend du CNRS. Vous êtes venu avec un autre historien, Antoine Lefébure. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez avec Christian Delage et au recueil de paroles. Vous êtes passionné d'archives, vous êtes plongé dans le passé, dans celle de la police pour écrire comme conversation secrète sous l'occupation. Et là, vous créez à nouveau des archives, en quelque sorte, pour les temps futurs. Quel est le projet, Christian Delage? C'est l'idée que rien ne remplace pour l'histoire le témoignage immédiat, ou en tout cas le témoignage au plus près de l'événement?
Bah, disons que là, on est dans une circonstance très particulière, puisque l'événement a provoqué une violence extrême. Et nous avons travaillé depuis longtemps sur ces questions-là. Quelle bonne distance on peut trouver? Nous travaillons sur le temps présent, donc l'immédiat fait partie de cette préoccupation. Et comme nous avons une expérience sur les témoignages oraux depuis très longtemps, puisque notre laboratoire créé en 78 est issu du comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait pour vocation de rassembler des archives, qu'elles soient orales ou scripturaires, sur cette histoire. Voilà, nous sommes dans une histoire où nous sommes acteurs et témoins, si vous voulez. Donc, nous avons vocation à nous intéresser à cela.
Et le but, c'est de produire un récit historique incontestable. On pourrait vous dire, mais le récit, le déroulement des faits, on l'a déjà. Les policiers, les juges, les journalistes l'ont établi.
Alors, pour l'instant, le déroulement des faits, il appartient à une personne, qui est le procureur Molins, que vous avez reçu ici.
Oui.
Il y a une enquête en cours. Et à l'intérieur de cette enquête, le procureur Molins a établi la liste des survivants. Ils sont 987 à l'heure actuelle, qui sont suivis à la fois sur le plan psychologique et sur le plan juridique, à l'approche éventuelle d'un procès où ils pourraient se constituer partie civile.
Alors, ce que vous menez, Antoine Lefébure, ce sont des entretiens au long cours et pas des interviews, comme on pourrait le faire avec nos micros de journalistes.
Oui, c'est la première fois d'ailleurs, parce qu'il y a eu beaucoup autour de ces événements, une réponse politique, une réponse policière, bientôt une réponse judiciaire. Par contre, la société civile, et notamment les victimes, les témoins, on les a très peu entendus ou sous forme de brefs extraits. On a obtenu de leur autorisation, dans la mesure où on leur laissait le temps de parler. Et ce qui est étonnant, c'est que chaque entretien dure une heure et quart. Et en écoutant un peu avec l'oreille d'un réalisateur, on se dit, mais il n'y a rien à couper. Il n'y a pas de digression, d'affaires personnelles et tout. C'est d'une densité incroyable. Et on se retrouve avec 20 heures de documents sonores et images, hein, parce qu'on a tourné de manière très professionnelle avec des caméras de haute définition. Et ça constitue une archive absolument extraordinaire.
Qu'est-ce qui est le plus important là-dedans? C'est le déroulement des faits dont je parlais à l'instant ou le ressenti des gens que vous interviewez?
Alors c'est le déroulement, parce que aussi bien pour nous mais surtout pour les témoins et les victimes, ils veulent comprendre ce qui s'est passé minute par minute, parce qu'ils ont des hallucinations, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Il y en a un par exemple qui avait l'impression qu'il était 18h et que le soleil tombait. Il sait qu'il était 21h30 mais il a vu le soleil tomber, donc il a besoin de se confronter avec les autres, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de faire de manière collective, c'est-à-dire qu'on a pris effectivement l'immeuble en face du Bataclan et là on a eu une solidarité dès le soir même naître entre les différents locataires propriétaires de l'immeuble. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'ensemble ils sont beaucoup plus forts.
Mais j'imagine que le ressenti, l'émotion ne sont pas les mêmes suivant la distance qu'il y a à l'égard de l'événement.
Alors ils sont tous ceux qu'on a interviewés sont vraiment ou bien à l'intérieur du Bataclan ou bien de l'autre côté. Mais suivant les étages, par exemple au 7e étage, on entend beaucoup plus les bruits qu'au 2e étage bizarrement. Par contre au 2e, on voit beaucoup plus ce qui se passe. Et ce qui est drôle, c'est que tous les récits sont totalement singuliers, ouais. Et tous très très intéressant.
Pardon, je me suis mal exprimé, je voulais pas parler de la distance géographique, mais de l'écart de temps entre le drame et votre recueil de paroles.
Alors justement, on est parti sans aucun moyen, avec Christian Delage, avec les HTP, qui ont été les premiers à nous faire confiance, 10 jours après les attentats. Donc, si vous voulez, 10 jours après, on a la déchirure de ce qui s'est passé dans la voie, et ça donne une intensité extraordinaire. Les entretiens qu'on a fait au mois de janvier, l'intensité baisse. Et cette intensité, bon, vous le verrez à la radio, notamment à l'émission à 21h, cette intensité, avec elle Jean est Lebrun. Très importante.
Intensité très importante. Chaque témoin compte, donc c'est le nom de cette opération menée en partenariat avec France Inter. Combien de témoins, combien de personnes ont été impactées d'une façon ou d'une autre par les attentats du 13 novembre, Christian Delage?
Là, c'est le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire près d'un millier, hein, puisqu'ils sont suivis à l'heure actuelle donc par à la fois des psychologues et une aide juridictionnelle.
Ouais.
Et donc, si vous étendez aux proches, à la famille, vous voyez qu'on va très vite à des milliers de personnes.
Vous irez jusqu'à combien?
Alors ça tout dépend des moyens et du temps que nous aurons pour faire cela. Dans l'idée de chaque témoin compte, il y a l'idée que chaque témoin est un témoin individuel qui a sa propre histoire. Mais si on regarde aussi avec les outils critiques que nous avons en tant qu'historiens, l'idée c'est aussi de croiser ces témoignages entre eux. C'est dans le croisement de ces témoignages et dans leur association avec d'autres sources, policières, judiciaires ou simplement des travaux d'historiens, que nous parviendrons à une sorte de vérité.
D'autres sources, ça veut dire que vous pourriez aussi interroger des journalistes qui ont couvert l'événement?
Absolument, mais d'ailleurs c'était notre intention et on le fera.
Est-ce que des témoins vous ont dit « Ok, mais à condition que mon récit ne soit pas public » ?
Alors, c'est une question évidemment qui se pose beaucoup. Disons que nous, on vient, si vous voulez, après une énorme médiatisation de l'événement. Hein. Mmh. C'est-à-dire, si on compare à des événements plus anciens sur lesquels nous avons travaillé, si on compare, pardon, mais c'est ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé, sur la libération des camps, hein, je compare pas les deux événements, mais je compare leur traitement en termes de mémoire. À l'époque, pas du tout de couverture médiatique, hein, très peu, je dirais. Enfin, il y a des choses, mais et ce qui circule très peu. Aujourd'hui, vous avez fait immédiatement une couverture énorme. Donc nous, on vient derrière, face à des personnes qui sont en train de se reconstruire, qui sont, pour les survivants, évidemment, tendues vers l'avenir qui est le leur, hein, puisque l'une des caractéristiques de ce qui s'est passé, c'est la jeunesse. Hein, la moyenne d'âge est 34 ans. Mmh. La plus jeune avait 17 ans, celle qui est décédée.
Ça veut dire que pour la première fois, les historiens sont plus vieux que...
Absolument. Oui, ça inverse complètement la perspective.
Si légitime.
Et pour avoir travaillé sur les témoignages des survivants de la Shoah, c'est clair que plus le témoin est proche de l'événement, mieux c'est en termes de restitution. Non, oui. Pas simplement en termes de distance ou de mémoire, mais parce que plus le temps passe, plus les gens apprennent, lisent, entendent des choses sur ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, et ils les associent à leurs propres souvenirs, et donc on est sur quelque chose qui est intéressant en tant que tel, mais qui est reconstruit. Donc plus on est proche, et plus on est dans une approche qui est sensible par rapport à eux, dans une durée qu'a évoqué Antoine Lefébure, plus on approche de leur vérité.
C'est un vieux débat d'historien, on en parlera tout à l'heure, il a été induit notamment par Raoul Hilberg sur la méfiance à l'égard du témoignage, oui, et la fiabilité à l'égard
il avait un petit peu changé d'avis vers la fin.
Du document, mais Daniel Cordier a dit la même chose aussi il y a quelques années dans un livre sur l'histoire contemporaine et sur l'histoire de l'occupation. Un mot encore, est-ce que ces archives pourraient être éventuellement utilisées par la justice, puisqu'il y aura forcément procès maintenant, on en a la certitude.
C'est un petit peu difficile.
Antoine Lefébure.
Il faudrait l'accord des témoins. Pour le moment, ce qui est très important, c'est que les victimes qu'on a interviewées sont contents de ce qu'on fait. On leur a longuement expliqué, ils ont longuement parlé, ils sont très contents. Et il y a un phénomène, ce que Yann Patoka appelait la solidarité des ébranlés. C'est vraiment la solidarité des ébranlés, c'est des gens qui savent qu'aujourd'hui, le pouvoir, c'est l'opinion, et que finalement, ils vont pouvoir peser. Tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils ont vécu va sortir dans le champ médiatique sous forme de films, de banques de données. On va voir ce qu'on peut faire. Et plus il y en aura, plus ça sera intéressant, parce que cette histoire du temps présent qui se constitue, elle est lourde. Elle crée le passé, bien entendu, en tant qu'histoire, mais elle est lourde du futur. De la même manière que la guerre 14-18 a changé le monde, je suis sûr que la manière dont on va réagir à ces attentats sont en train de changer le monde, et notamment parce que c'est la génération des 30 ans qui prend le pouvoir, qui a été directement frappée.
Alors, vous avez recueilli déjà toutes sortes de témoignages. On va en entendre un avant d'accueillir Hélène Jouan pour la revue de presse. C'est celui de Chloé qui habite Passage Saint-Pierre-Amelot, juste en face des sorties de secours du Bataclan. Et l'extrait que nous allons écouter se situe après l'événement, au petit matin, à 7h du matin, quand elle ouvre ses volets et qu'elle redécouvre à nouveau cette rue qui lui est si familière.
Je me suis levée, je suis allée vers la fenêtre de mon salon donc qui regarde sur le Bataclan. J'ai laissé l'entrée un peu d'air. Il y avait une drôle d'odeur dans l'air. C'était un peu cette odeur du matin, mais très... Et là, pareil, j'ai vu beaucoup de policiers. Les portes étaient encore ouvertes. La rue était pleine de sang. Il y avait des traînées de sang partout. Il y avait des habits, des écharpes, des manteaux, des pulls, un peu partout. Et je sais pas, je suis restée tétanisée par tout ça, en fait. Et tout d'un coup, ce Bataclan, qui était comme une espèce donc depuis mon enfance, qui était comme un truc très stable, où tellement de monde était venu chanter, où il s'était passé tellement de trucs, tout d'un coup, c'est devenu, pour moi, sur le moment, j'avais l'impression d'un grand tombeau. Un grand tombeau et tous ces policiers qui gardent le tombeau. Et tout était calme, personne ne parlait, personne n'osait parler. On avait l'impression que... Je me suis penchée, j'ai regardé toutes les maisons de ce côté-là, je voyais rien dans le boulevard Voltaire, tout était quadrillé, tout était fermé. Comme si la vie était partie, mais complètement. Et je m'imaginais tous les voisins, tous les gens qui avaient été là, peut-être qu'ils pensaient la même chose que moi, je sais pas, je m'imaginais l'effet que ça leur faisait à eux. Et que quelque part, en 4 heures, il y a quelque chose qui s'était passé qui nous avait complètement enlevé à notre réalité.
Antoine Lefébure, un mot de commentaire. Vous avez recueilli ce témoignage. Il y a à la fois le ressenti d'une habitante du quartier qui connaît parfaitement la topographie des lieux, cette salle de spectacle très ancienne, celle du Bataclan, et puis des informations qui surprennent, le fait que c'est encore le chaos, il y a du sang et des vêtements abandonnés à 7h du matin, plusieurs heures après la tuerie.
Oui, tout est surprenant dans les témoignages. On apprend des choses même en termes d'informations que les médias n'ont pas relatées parce qu'ils ne savaient pas. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que ces témoins des immeubles en face, pendant 4 heures, ont tout vécu, ont tout vu. Bien mieux que les policiers, bien mieux même que les gens à l'intérieur du Bataclan qui étaient abasourdis et qui étaient ensevelis. Donc là, je pense effectivement pour la mémoire de l'événement qu'on a quelque chose de très authentique, de très important, qui va passer le cap médiatique, c'est-à-dire que les médias vont s'intéresser à ces témoignages un peu bruts et que quelque chose va s'élaborer qui va nous permettre de comprendre à la fois l'histoire, mais aussi le présent, voire même le futur, de quoi est lourd tous ces événements et de quelle manière va-t-on ou est-on en train de réagir à cette agression que nous avons tous subie.
Antoine Lefébure, Christian Delage, président de l'Institut d'Histoire du Temps Présent. On vous retrouve dans quelques minutes avec Patricia Joly qui est journaliste au Monde et qui a réalisé des portraits de victimes et plusieurs papiers post-attentats dans le quotidien Le Monde. À tout à l'heure, il est 8h35.